Zar électrique sur les ondes de Radio Escapade, il est 14h01. Il est donc pour nous l'heure de retrouver Bruno et son émission Écriture dessinée. Bonjour Bruno.
Bonjour Antoine. Alors, on va avoir un entretien tout à l'heure avec Bénédicte Muller. Et pour sa première bande dessinée, elle déploie un roman graphique où, dans un espace familial, où une fratrie d'enfants compose avec les adultes, parents, grands-parents. Ce monde d'adultes qui leur échappe et dont ils cherchent la reconnaissance. Se dessinent les figures de l'adulte prédateur et de l'enfant proie. Un récit où chaque mot, chaque trait, chaque page peuvent être revendiqués. Nous serons avec Bénédicte Muller vers 14h15. Et bien tout de suite.
Écriture dessinée.
Bonjour à toutes et à tous. Oui, il faut que j'attende le signal. Alors, deux brèves qui vont l'être de moins en moins. Alors, le feuilleton d'Angoulême continue officiellement. L'édition 2026 est supprimée. C'est l'annonce qui a été faite le 1er décembre par les avocats de la société 9e Art Plus, à qui était confiée la gérance de ce festival, de son organisation. Et cette annonce fait suite à la conférence de presse du 20 novembre, où les financeurs publics ont exprimé leur refus de verser les subventions indispensables, bien sûr, à la tenue d'une édition du Festival d'Angoulême. Sans auteur et autrice, sans éditeur et éditrice, eh bien, le festival 2026 aurait été simplement une coquille vide. Alors, on peut se souvenir, par exemple, en 2003, lorsque le festival d'Avignon n'a pas eu lieu, la grève des intermittents du spectacle avait fait que le off avait été supprimé, le in avait démarré et puis c'était finalement arrêté. Une annulation qui avait fait perdre énormément d'argent à la ville même et à l'ensemble des acteurs et des commerces, des restaurants et tout ce qui... des hébergements qui, bien sûr, profitent du Festival d'Avignon. Angoulême, c'est exactement la même chose. Il va y avoir un manque à gagner très important. Bien sûr, restauration, hôtellerie, l'ensemble des commerces profitent pleinement des 4 à 5 jours, on va compter 5 jours du festival. Et donc, avec les 200 000 visiteurs qui sont présents lors de ce salon à la fin du mois de janvier, le dernier week-end de janvier, eh bien, on imagine très facilement les répercussions que ça peut avoir. La Chambre de commerce, donc du territoire de Langoumoisin, eh bien, a estimé à 3,5 millions d'euros le manque à gagner pour le festival d'Angoulême. Alors, je sais pas pourquoi, moi je vais pas pleurer. C'est une très bonne chose que on puisse aller jusqu'à l'arrêt d'une édition comme celle du Festival d'Angoulême, parce qu'il y avait peut-être une vigilance à avoir bien plus importante avant, et que la société 9e Art Plus, eh bien, considère cette mission culturelle de la gestion du festival avec peut-être beaucoup plus de sérieux et de professionnalisme. Alors, vous pourrez voir des interviews dans différents médias, notamment celle de Élise Boucher-Tran, qui est la jeune femme qui a été donc directrice de la communication de 9e Art Plus et qui a accusé donc un prestataire de viol, et donc il y a un procès qui est en cours, et elle a mis au prud'homme la société 9e Art Plus pour les manquements qui ont suivi les annonces et les informations qu'elle a transmises à la société elle-même. Vous pourrez aussi trouver des propos de Muriel Dely, qui est l'avocate de la société 9e Art Plus. Donc il y a un certain nombre d'informations comme ça qui peuvent compléter cette chronique. Mais en tout cas, l'histoire ne s'arrête pas tout à fait là, parce que comment le Festival d'Angoulême va retrouver toute son ampleur ? Est-ce que 2027 pourra être une édition pleine et entière avec un autre géant, alors que 9e Art Plus est encore gérante jusqu'à cette édition 2027. Et comment les autres salons vont pouvoir profiter peut-être de cette aubaine et de cette situation, et comment la bande dessinée, finalement, tout ce travail de fond qui est fait depuis un certain nombre d'années, qui a permis à des auteurs de développer vraiment des catalogues de très grande qualité, comment tout cela pourra-t-il continuer ? Ça ne sera pas comme avant. Et bien, ce n'est pas plus mal, parce que là, il y avait quand même des soucis. Les Shadocks. Voilà, ça c'était Angoulême. Et donc, on va continuer. Je voulais vous présenter le musée de l'imprimerie et de la communication graphique, qui est un musée lyonnais. Et l'imprimerie, il y a un berceau remarquable. C'est un immeuble historique dans le Vieux Lyon, dans la presqu'île de Lyon. Et il est en travaux jusqu'au printemps 2027. Et le site internet offre une visibilité sur les collections, sur le patrimoine que l'on peut découvrir dans ce musée. Il y a sur le site toute la présentation de fonds documentaires. Il y a une navigation dans l'inventaire de plus de 5000 références, un accès aux réserves du fonds documentaire, ce qui, même lorsque le musée est ouvert, n'est pas facile. Et il y a en plus quelques événements toujours, et le site permet des présentations, des focus sur des ouvrages de la collection du musée. Alors, il y a, par exemple, sur le site, un focus sur les contes de Madame d'Aulnoy, qui est une des premières conteuses. Elle en a écrit un en 1690, elle en a écrit 25 au total, et il y a une édition en livre qui a été faite en 1697. Et l'édition qui se trouve au musée de l'imprimerie et de la communication graphique est une version de la fin du 19e, mais déjà ça permet d'avoir un ouvrage assez remarquable, et c'est surtout un livre très important parce que il montre comment il y a tout un matrimoine littéraire qui a été occulté, notamment dans le conte par exemple, avec la figure de Charles Perrault entre autres, où tous les conteuses qui œuvraient à l'époque et qui ont publié ont été occultées par par Charles Perrault en tant que conteur, et donc les femmes étaient écartées également. Donc en bande dessinée, on a eu aussi un plaidoyer pour un matrimoine de la bande dessinée mondiale, et là on retrouve cette même préoccupation d'un matrimoine pour la littérature, et notamment la littérature orale. Et bien là, ça va être les moustiques. Je vais encadrer le livre de Bénédicte Muller, La tête sur mes épaules, par deux autres. Et donc, je vais commencer maintenant par un roman graphique publié chez un éditeur dont c'est pas forcément la spécialité, qui s'appelle 404 Éditions, 404 Graphiques. Et ce roman graphique est signé Will MacPhail. Alors, il y en a le suivant qui est sorti au mois d'octobre, celui-là est un peu plus ancien, mais je voulais vraiment commencer par celui-là parce que d'abord Will MacPhail est un dessinateur du New Yorker et donc c'est aussi un humoriste qui a un dessin d'humour très incisif. Et le site internet de l'auteur, donc MacPhail, c'est MCPHAIL, permet de découvrir ce style très incisif qui fait pleinement merveille dans les pages du New Yorker. Alors, au-dedans, c'est le titre de ce roman graphique, est quand même une somme, puisque le livre... est un livre d'ampleur, il fait 272 pages. Et donc, on va découvrir Nick, qui est un jeune citadin, qui est illustrateur, dont la vie oscille entre ses projets personnels et un travail alimentaire au sein d'une agence de publicité. Il prend la pause dans des cafés et des bars à bière artisanales, conscient que quelque chose manque à sa vie. Et que ce quelque chose, ce sont les autres et les mondes intimes. Bien plus qu'un critique ou un récit autobiographique simpliste sur la vie des jeunes trentenaires, cette tranche de vie de Nick s'attarde sur le fossé qui va nous séparer les uns des autres. Il y a une galerie de personnages qui... très vite va prendre de l'épaisseur et on a Anna, la mère de Nick, qui va affronter un cancer du pancréas. Il y a sa sœur Anne avec son enfant, le neveu de Nick, qui va le garder de temps en temps. Et puis il y a Ren, qui est une oncologue qu'il rencontre et il y a un attachement qui se met en place. Alors, ce livre va très vite vous surprendre de par sa liberté d'écriture et sa liberté de mise en image. Manifestement, Will MacPhail a pleinement pensé chaque élément de son histoire. Alors, pour ça, en fait, au-dedans va aussi représenter eh bien, ces pensées qu'on a en permanence et qui, à un moment, on est dans une situation avec d'autres personnes, dans une soirée, une réunion, ou quelqu'un qu'on va croiser comme ça dans la rue, on a envie, on aimerait, on voudrait que cette pensée soit exprimée et adressé directement à la personne que l'on observe. Il y aurait ainsi des intimités qui seraient beaucoup plus facilement révélées, qu'il le deviendrait moins, mais qui permettraient à des personnes qui n'ont pas cette facilité, cette aisance, de pouvoir vaincre un certain nombre de situations. C'est un des points, et seulement une des pistes de lecture de « Au-dedans ». Parce qu'il y a, pour bien nous immerger dans cette personnalité de ce jeune citadin, de Nick, eh bien, un ensemble de situations qui vont former autant de chaînes narratives et qui vont nous permettre aussi de constituer de nous représenter la personnalité de Nick aussi par le contour. Il y a les propos, les pensées, ce qu'il exprime, mais il y a aussi ce que vont lui renvoyer un certain nombre de proches, de personnes. Il y a une discussion, par exemple, avec les autres collaborateurs de l'agence pour qui il travaille. Il y a différentes rencontres, des patrons de bar chez qui il a des habitudes. Et donc, à chaque fois, il y a des éléments de langage qui vont apparaître, qui vont permettre à Nick de progresser, d'aller un peu plus loin dans cette rencontre avec les autres. Graphiquement, ça se traduit aussi par des mises en images très différentes. Et c'est toute la force de ce roman graphique. On a un dessin qui va être d'une grande précision. C'est un dessin au crayon qui est un peu appuyé par la reprographie, mais qui garde cette légèreté. Il y a des niveaux de gris, un lavis plutôt léger qui va modeler, qui va donner des nuances, qui va apporter des éléments de lumière, qui va animer chaque image. Et il y a donc un point graphique qui est assez essentiel, ce sont les yeux, les regards. Et Nick va apporter, et d'autres personnages l'auront après, ces grands yeux, grands ouverts, avec cette pupille qui devient petite au milieu des yeux et qui fera que, eh bien, on va avoir un étonnement, une façon d'être subjugué, une sorte de découverte parce qu'on a réussi à passer un cap. Même à travers ces gros yeux, il y a aussi déjà des nuances dans le dessin. Et puis d'autres personnages ont aussi adopté cette attitude et qui fait qu'on a une lecture et une mise en relation des personnages qui va se décaler par rapport à ce que l'on lit habituellement. Et puis Will MacPhail va jouer avec la mise en scène, c'est-à-dire utiliser pas forcément le même espace tabulaire, c'est-à-dire le même placement des cases dans la page. On peut très bien voir une page avec trois cases superposées, une bande dessinée classique, d'autres qui vont être avec juste une séparation d'un trait entre chaque case. Et à chaque fois, le lecteur, dans la finesse de lecture que nous propose au-dedans, va immédiatement ressentir la différence et la narration qui va se modifier par ce simple changement de mise en image. Sur 272 pages, ça donne un rythme et une ampleur tout à fait rares et qui fait que, comme Will MacPhail reste au plus près des personnages de Nick, des situations, eh bien, on va vraiment rentrer en profondeur dans ce moment de vie où Nick va apprendre, s'ouvrir, découvrir, être profondément bouleversé, d'une grande tristesse. Et il y a toutes les pages en couleur qui vont, elles, apporter dans cet ensemble de noir et blanc et de niveau de gris des visions du dedans aussi. Et ça va vraiment compléter admirablement cette écriture. Au-dedans, donc, qui est sorti il y a maintenant quelques temps, qui a été nominé, primé dans différentes manifestations. Donc, c'est Will MacPhail, ce récit de 272 pages publié par les éditions 404 graphiques et qui a été traduit par Basile Beguery. On n'a pas le nom du lettreur qui a fait un très beau travail aussi avec beaucoup d'émotion. Et le prix de ce livre est de 26,50 € et il a été imprimé en France. Musique. Thank you.
c'est la nuit, c'est ça moi. Sisa moya e ala. Imanada mugomina we farali juguluka e sisa moya.
La tête sur mes épaules est la première, le premier roman graphique, la première bande dessinée de Bénédicte Muller. Et c'est un livre qui tout de suite va attirer le lecteur par les décalages immédiatement perceptibles dès la couverture. Déjà le titre, « La tête sur mes épaules », qui fait référence à la tête sur les épaules, et qui va présenter une tête d'une très grande taille avec un ado qui est une ado qui est juste à côté, mais de plus petite taille. Et donc, il y a le poids de cette tête qui fait fléchir légèrement l'ado. Donc, à partir de ce décalage et de cette métaphore sur la tête sur mes épaules, Bénédicte Muller va imaginer un monde, une fratrie, une famille avec un grand nombre d'enfants. Il y a Martha, la narratrice. Et je voudrais, avant qu'on en discute avec Bénédicte Muller, déjà évoquer le récit. Martha, donc la narratrice, habite une grande maison où les têtes se détachent des corps et s'y replacent sans peine. Elle y vit avec 7 autres enfants et des adultes immenses dont l'attention vient rarement se mettre à hauteur d'enfant. Il n'y a que celle qu'on surnomme la grosse tête qui semble disponible pour jouer. Les enfants l'adorent, la grosse tête les fascine, même s'il lui arrive d'être effrayante et d'avoir des comportements étranges. Une nuit, le comportement de la grosse tête dépasse l'entendement. Elle écrabouille Martha et la laisse dans une grande confusion. Coûte que coûte, Martha prend sur elle et se retrouve prisonnière d'une histoire qui, loin de s'estomper avec le temps, va la couper d'elle et des autres et l'empêcher de grandir. Mais comment ne pas perdre la tête quand, encore enfant, on se retrouve dépossédé de son corps ? Le décalage, les décalages perceptibles dès la couverture vont prendre une grammaire, une langue, et cette métaphore de la tête sur les épaules va être l'occasion, dans toute une première partie, de montrer ces liens qu'il y a entre ce groupe d'enfants et puis cette difficile relation avec des groupes d'adultes qui sont pas toujours bienveillant. Au final, chaque image est construite et nourrie par cette narration portée par le dessin, par le trait, qui représente ainsi de façon presque première cette expression « ne pas avoir la tête sur les épaules ». Et de ce jeu graphique, il va y avoir une lecture finalement plus légère sur cette tragédie qui est cet impensable, cette action-relation qui dépasse l'entendement. Donc, c'est un livre que je tenais absolument à présenter et à discuter avec son autrice, Bénédicte Muller, pour qu'on puisse rentrer et qu'elle nous permette de découvrir les processus de création de La tête sur mes épaules. Bonjour Bénédicte Muller.
Bonjour.
Voilà, ça y est.
C'est bon.
Tout va
ça
bien. Impeccable. Donc, alors, il y a, comme je le présentais dans le chapeau, une relation texte-image qui est extrêmement dense, extrêmement intense. Comment c'est a démarré l'écriture de La tête sur mes épaules ? Vous évoquez que Julien Magnani, l'éditeur, vous a conseillé, par exemple, d'utiliser la bande dessinée pour cela. Alors, quels étaient les préalables à ce roman graphique ?
Alors, oui, effectivement, je pense que dans un premier temps, j'imaginais pas faire une bande dessinée, j'imaginais plutôt un livre illustré, comme mon premier livre, La minuscule maman. Et c'est au fil des versions que la question de la bande dessinée s'est posée, parce que en livre illustré, on allait plutôt vers un livre pour enfants, et dans ce cas-là, il aurait fallu que je simplifie énormément l'histoire. Et la bande dessinée, au contraire, me donnait la possibilité de développer beaucoup plus la métaphore de la tête. Donc c'est ce qui m'a semblé un moment le plus judicieux. Mais dans un premier temps, c'était vraiment une situation déjà, une histoire qui était déjà pensée en images et en texte avec la métaphore de la tête, mais plus en version illustrée. Ouais.
Alors Bénédicte Muller, comment c'est développer, c'est approprier, comment vous vous êtes approprié le langage de la bande dessinée pour écrire cette situation de violence, de domination, d'emprise d'un adulte sur une enfant. Une ado, une ado, c'est ça, on peut dire.
Oui,
une
enfant, là je n'ai pas précisé, oui. Donc ça on peut interpréter ça comme on veut pour la bande dessinée, je suis allée lire beaucoup de bandes dessinées, je suis allée en emprunter pas mal à la bibliothèque. Après le rapport texte-image, la façon dont ça s'est construit vraiment, donc j'ai à la fois utilisé l'image et le texte pour raconter et organiser le récit, ça c'était quelque chose qui était déjà présent dans dès le départ, qui est dans ma façon de fonctionner et de raconter des histoires où je vais avoir finalement imaginé des situations en images. Là, c'était vraiment l'idée de la confusion de la tête que fait Martha, que fait la victime en fait, de prendre cette grosse tête pour elle. C'était vraiment l'idée de départ du livre, et donc ce jeu qu'il y a entre l'image, le texte, la façon de représenter les choses beaucoup par des métaphores ou des systèmes graphiques, c'est quelque chose qui est présent dans mon travail en fait déjà en général, et déjà dans mon travail d'illustratrice pour répondre à des commandes aussi ou à plein de sujets, des articles, etc. C'est un langage en fait graphique et une façon de fonctionner qui me permet d'illustrer un certain nombre de choses et qui revient aussi quand je raconte une histoire.
Il y a dans l'écriture de La tête sur mes épaules, Bénédicte Muller, une façon de rester extrêmement centré sur le thème. Et comment s'est précisée l'écriture ? Est-ce qu'il y avait des tons, un timbre que vous ne vouliez pas avoir ? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez évacuées pour ne pas alourdir le récit ? Et comment s'est construit ce récit d'ampleur ? Le roman graphique fait 216 pages.
Oui, Ouais. Bah, il y a eu vraiment, c'est un travail qui m'a pris 5 ans. L'idée initiale, c'était vraiment une grosse tête qui hante la maison d'un personnage. Ce personnage fuit cette tête, son espace se réduit puisqu'il ferme toutes les portes à chaque fois qu'il se trouve nez à nez avec cette tête. Et bon, et un jour, il décide de s'y confronter et quand il va la trouver, il se rend compte tout d'un coup que cette grosse tête a son visage. Donc là, ça c'était l'idée de départ de l'histoire. Ça s'est effectivement énormément développé ensuite au fil des versions. Je dirais que c'est au cours de la dernière version, parce qu'il y avait donc déjà ce personnage de grosse tête, il y avait déjà le personnage de Martha. Et c'est tout l'univers des têtes qui s'enlèvent, tout ce jeu est venu finalement dans la dernière version, et c'était une façon pour moi de contextualiser aussi le personnage de la grosse tête qui pouvait paraître assez étrange, sinon un peu monstrueux, en tout cas pas habituel. Là, ça me permettait de dire bah voilà, dans cette maison, en fait, tout le monde peut enlever sa tête, c'est normal. Donc ce gros personnage de grosse tête, c'est normal.
Alors, comment décidez-vous, par exemple, d'écarter une scène si dans les réécritures, dans les versions successives, il y a eu ces abandons? Et est-ce qu'il y a, il y en a eu déjà, Bénédicte Muller?
Des abandons. Alors, oui, bien sûr, il y a des choses que j'ai laissées de côté. Après, dès la première version, je m'étais éloignée. Une fois que j'ai posé concrètement, commencé à écrire concrètement l'histoire, je me suis déjà éloignée de l'intention première. Et oui, évidemment, il y a des choses que j'ai dû abandonner en cours de route. Ouais, un paquet.
Et je vous demandais comment choisissiez-vous ce que vous écartez. À quel moment ça se passe? Est-ce que vous avez eu des regrets? Vous en avez reprise? Comment se passe ce moment? Parce que on n'imagine pas que le livre est aussi fait par ce qu'il n'est pas.
Oui, oui. Donc, le livre est effectivement, il y a tout ce qui n'est pas dans le livre et qui quelque part fait partie aussi. Pour certaines choses, je pense que je me suis posé la question jusqu'au bout. C'est finalement la version imprimée qui fait que ben, c'est terminé. Et c'est comme ça, il y a des choses qui n'ont pas été mises. Et après, il y a aussi un certain nombre de choses où ben, ça paraissait, ça marchait pas, ça servait pas l'histoire. Parce qu'à un moment, c'est quand même ça ce qui était le plus important, c'était que ça serve le... Au-delà de moi, mon intention, de ce que je peux vouloir raconter, etc., à un moment, je suis au service de l'histoire, et donc s'il y a des choses qui ne servent pas l'histoire ou qui la perdent trop, qui cassent le rythme, et j'enlève.
Bénédicte Muller, c'est une tragédie, même si la fin n'est pas aussi tragique, mais c'est une tragédie. Quel rapport vous avez avec la tragédie et qu'est-ce que ça implique dans l'écriture?
Avec la tragédie, c'est pas évident de travailler sur un sujet qui est aussi lourd, aussi difficile. Ça a posé beaucoup de questions. Il y avait beaucoup de moments où j'avais envie de quelque part faire un projet plus simple, plus léger, mais je pense que j'ai mis beaucoup de temps à écrire par exemple la dernière partie du livre. Le livre est en 3 parties et pour moi la plus difficile et éprouvante, peut-être aussi à la lecture pour le lecteur, c'est la troisième partie. Et c'est vrai que c'est un proportionnellement, c'est une partie qui m'a demandé beaucoup plus de temps d'écriture, parce que je pense qu'il y avait cette question notamment de m'autoriser à la gravité, à aller dans aussi dans cette dimension tragique. Après, la fin du livre, effectivement, elle propose quand même quelque chose une ouverture, et c'était important pour moi de pas rester, de pas laisser le lecteur et mon personnage d'ailleurs enfermé dans cette tragédie.
Bénédicte Muller, je vous propose votre deuxième choix musical. Il s'agit de Paris Zengene. À tout de suite. Vous êtes sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes en direct avec Bénédicte Muller à l'occasion de la parution en septembre de son livre « La tête sur mes épaules ». Bénédicte Muller, quelle dessinatrice êtes-vous ? Quand ça se passe sur la table à dessin ? Dans votre dessin, il y a un côté très, très festif, très joyeux, très... très rond aussi, mais comment ça se passe
Sur la table de dessin, ça se passe, il y a plein d'étapes différentes. Il y a une étape de dessin qui s'est vraiment faite au moment de l'écriture du livre, où j'avais déjà besoin de vraiment poser des images pour penser et mettre en place l'histoire. Et après, le dessin final, il est réalisé au trait. Alors, c'est une technique que j'ai développée, en fait, pour ce livre, parce que jusqu'ici, mes illustrations, elles étaient surtout faites avec au pinceau, avec des lavis de gouache ou d'aquarelle ou d'encre. Et là, comme avec toute cette ribambelle d'enfants, un ton assez vivant quand même, j'avais envie que le trait puisse communiquer ça aussi, et d'être dans un dessin peut-être un peu moins figé, un peu plus vibrant. Donc y a un trait au crayon, et ensuite les couleurs ont été faites au pinceau, à l'aquarelle. Je pensais que ce serait quelque chose de, de simple. Pour moi, les couleurs, ça m'a posé finalement pas mal de questions à la réalisation.
C'est-à-dire ?
Et ben, j'ai vraiment hésité sur les couleurs et était très peu sûre de ce que je faisais. Je pense que j'étais pas habituée non plus encore à faire utiliser une gamme de couleurs sur 200 pages et à voir comment ça se tenait sur la longueur. Donc je pouvais faire des choix et puis me rendre compte au bout de quelques pages que peut-être c'était pas idéal, voilà.
Alors la tête et cette grosse tête qui est donc le personnage, un des personnages centraux de votre roman graphique, celle qui est coupable de cette violence sur Martha. Et il y a tout un jeu graphique pour l'animer, pour la faire exister dans toute cette relation qu'il y a entre enfants et adultes, entre ces questions de transmission, ces questions de langage, ces questions d'autorité. Comment là aussi se passe le dessin de cette grosse tête et de ce qu'elle représente ?
Ouais, le dessin de la grosse tête, il est venu assez assez rapidement. Par contre, au moment où j'ai mis le personnage en place, ben se posait la question de comment le faire agir et comment lui donner un intérêt particulier. Et bon, bah comme il avait qu'une tête, il y avait pas beaucoup d'éléments en fait pour le rendre. Un peu vivant et créer aussi évoquer cette fascination que les enfants ont pour ce personnage. Et donc c'est là que m'est venue notamment l'idée de jouer sur sa bouche et ce qu'elle peut faire avec la ligne de sa bouche.
Il y a une trouvaille graphique, Bénédicte Muller, qui est comment Martha va être imprimée en creux par le poids de cette grosse tête au moment de cette nuit fatidique qui est une légèreté de représentation parce qu'on n'a pas l'acte lui-même, mais qui en donne toute la puissance. Là aussi, à quel moment, comment s'est fait cette trouvaille graphique et narrative ?
Ouais, ça c'est quelque chose qui. Bon, j'avais cette situation. Il y avait Martha et la grosse tête face à face sur ce lit. Et je me disais, bon bah comment ça se passe du coup, ouais. Bon, de se faire manger la bouche, ça aurait pu être une solution, mais qui était quand même qui me paraissait très classique. Et en fait, à un moment je me dis, ah mais en fait, elle va se faire écraser par cette masse, quoi, et se retrouver vraiment bloqué ça me permettait en plus après de représenter quelque part graphiquement l'empreinte de l'agression sur le corps de cette petite fille, comment ce corps se trouvait transformé. Voilà.
Bénédicte Muller, quels sont vos doutes pendant toute cette phase de création de la tête sur mes épaules?
Alors des doutes, j'en ai eu beaucoup. Il y avait le sujet déjà de m'autoriser quand même à parler de ce sujet-là, de m'autoriser à écrire une fiction autour de ce sujet. Et ça a été vraiment une des grandes questions. Est-ce que j'ai le droit ? Est-ce que ce que je raconte est juste par rapport à ce genre de situation ? Je pense que ça a été vraiment. Est-ce que c'est pas trop lourd aussi pour le lecteur ? Ouais, est-ce que j'ai le droit de jouer avec ce sujet, quelque part, d'inventer, d'aller aussi dans une histoire où il y a de la fantaisie quelque part, enfin qui se cantonne pas juste à raconter des faits ou à parler du sujet de façon très
Il vous en reste encore des doutes après la publication du livre ?
Non, je pense que je pense que c'est maintenant le livre est imprimé, il est fait. Donc j'ai eu des doutes jusqu'à sa sortie, plein de choses qui m'interrogeaient encore, mais le livre il est fait, il fait sa vie, et donc non, je dirais que maintenant je peux passer à le laisser tel qu'il est et passer à autre chose.
Merci beaucoup Bénédicte Muller pour cet entretien. Je vais rappeler les caractéristiques de votre livre, La tête sur mes épaules. C'est publié par les éditions Atrabile et dans la collection Flegme. Les 216 pages de ce livre sont au prix de 24 euros et le livre a été imprimé en Italie. En tout cas, très bonne continuation et à très bientôt.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
I wanna go downwards. I wanna be ground. I wanna be fed on. I wanna break down. I wanna be open. I wanna be food. I wanna be walked on.
But
I wanna be soil. I wanna be soil. I wanna be sound. I wanna hold secrets that will never be found. I wanna be soil.
Pour terminer, je voudrais vous parler, vous présenter le dernier livre d'Étienne Davodeau. Ça s'appelle « Là où tu vas ». Il y a un sous-titre « Voyage au pays de la mémoire qui flanche ». Étienne Davodeau construit son grand œuvre depuis maintenant pas mal d'albums, une trentaine. Et à chaque fois, il y a une nouvelle avancée, d'autres étapes, d'autres pistes narratives. Et donc là où tu vas a une force, une ampleur, et je voudrais un peu plus mettre en perspective et avoir plusieurs approches, et notamment par rapport à cette œuvre que construit Étienne Davodeau. On a vraiment l'impression que chaque livre ouvre l'horizon, ouvre de nouveaux possibles, Il y a eu, par exemple, des biographies comme celle de ses parents dans Les Mauvais Gens, cette rencontre entre professionnels, celui d'un auteur de bande dessinée et un autre d'un vigneron du Layon, ça c'est les ignorants. Où il y a, par exemple, cette biographie sur René Vautier dans « Un homme est mort ». Et puis, il y a des livres qui sont plus des reportages dessinés aussi, comme « Cher pays de notre enfance », où Étienne Davodeau était sur place avec le scénariste qui faisait des entretiens, et pour pouvoir les mettre en images, eh bien, Étienne Davodeau prenait un certain nombre de croquis, de repérages dessinés, et apportait ainsi une nouvelle dimension à sa mise en image. Il y a des documentaires comme Droit du sol, mêlés parfois à des fictions, comme par exemple dans Loire. Il y a toujours cette capacité par le dessin à capter, à donner un contexte, à créer des liens entre les personnages de l'histoire. Et si on explore l'œuvre de Étienne Davodeau, il y a vraiment dans les cadrages cette relation entre les personnages qui est présente, qui est patente. Voilà, Voyage au pays de la mémoire qui flanche est un livre sur Françoise Roy, qui est une accompagnante et qui suit des hommes, des femmes atteints de maladies neurodégénératives, qu'on simplifie souvent avec le terme de maladie d'Alzheimer, mais qui a ces maladies neurodégénératives, ces pathologies, ont des formes différentes. Françoise Roy est aussi la compagne d'Étienne Davodeau depuis plus de 40 ans. Et donc, c'est un livre qui s'appuie sur leur histoire commune et qui cherche aussi à aider les familles touchées par cette pathologie qui attaque la mémoire de façon très envahissante. Et donc, à côtoyer Françoise Roy, eh bien, il y a eu la naissance de l'idée de ce livre chez Étienne Davodeau. C'était il y a plus de 15 ans. Il y a eu, bien sûr, des discussions, mais aussi des refus de la part de Françoise Roy, qui n'était pas prête, ou Étienne Davodeau n'était peut-être pas non plus lui-même forcément prêt à porter une telle histoire. Il y a dans ce livre un côté essentiel, qui est le regard notamment sur les personnes atteintes de ces pathologies neurodégénératives et qui ne sont pas réduites à des malades de la maladie d'Alzheimer. Et c'est aussi un livre sur les proches qui accompagnent, qui sont présents au quotidien, appelés aussi des aidants. Et donc, il y a cette façon de s'attacher, et c'est là où Étienne Davodeau, avec son histoire et son bagage d'auteur de bande dessinée, va vraiment s'attacher à nous accompagner, nous aussi, dans l'intimité, dans l'environnement, dans le quotidien de ces différentes personnes qui sont atteintes de cette maladie d'Alzheimer. Et très vite, on comprend dans le livre que la terminologie est très contraignante. Et c'est par un ensemble d'éléments que va se composer ce récit qui va vraiment nous donner une approche beaucoup plus sensible, beaucoup plus intime de ce qu'est cette maladie. Il y a des récits de vie, ils sont quelques-uns à être présents et comment Françoise Roy va les accompagner. Donc c'est vraiment pas simplement le récit où on va voir une personne atteinte, mais vraiment comment se fait l'accompagnement, qu'est-ce qu'il permet. Et on va démarrer avec un premier témoignage, un premier récit de vie qui est celui de Monsieur Saunier. Et puis on va finir par celui de Cédric, qui est une personne atteinte de cette pathologie dégénérative et qui est âgé de seulement 59 ans. Et il y a donc ses enfants, son épouse, et il y a une présentation familiale de ce que représente ce moment, cette période extrêmement lourde. Là, ça, c'est les récits de vie. Et puis, il va y avoir des focus sur différents domaines, sur, par exemple, les réticences qu'on peut avoir vis-à-vis des personnes atteintes, comme par exemple, lorsqu'on et une personne va vous dire « mais tu ne viens plus jamais me voir » et on répond « mais j'étais venu, je suis là hier, tu te souviens pas ?» Et voilà. Et c'est ça, il y a beaucoup de réticence à essayer même de comprendre ce qu'est cette pathologie et comment la mémoire va fonctionner, pourquoi la mémoire ancienne a des précisions étonnantes et que la mémoire récente va être très difficile à mobiliser et qu'il y ait aussi cette mémoire gestuelle qui fait qu'on a aussi des gestes qui restent et qui sont là. Et il y a donc par rapport à ça des mots à trouver, des mots à choisir, des mots à définir avec les personnes atteintes pour qu'on soit vraiment dans cet accompagnement et surtout dans cette relation. Et il y a un passage qui décrit bien ce moment qui est de à quoi ça sert ? À quoi ça sert d'accompagner quelqu'un qui ne va pas se souvenir du moment où vous allez passer ? Et on a une scène où il y a un dialogue entre Étienne Davodeau et Françoise Roy. J'ai une question. Étant donné l'état de sa mémoire, qu'est-ce qui reste à Madame Marchand de tes accompagnements ? Je veux dire, si elle n'en a pas le souvenir, si elle n'en a pas le souvenir, quel bénéfice en retire-t-elle ? Françoise Roy répond. Bon, on ne peut pas lui demander, évidemment, donc on ne le saura jamais exactement. Mais venir régulièrement la voir, ça crée une sorte de routine. Ça l'aide à intégrer l'existence de ces moments-là. Je pense qu'elle reconnaît le type de moment qu'on passe ensemble et la relation que nous avons nouée. Bien sûr, si tu lui demandais ensuite qui est venu, tu fais une différence entre se souvenir et reconnaître. Elle ne se souvient sans doute pas de moi, mais quelque chose se met en place et reste grâce à notre relation qui peut lui être utile. Ce livre va déployer justement cette intensité de la relation, ce qu'elle peut apporter. Et donc ça va être par ces différents focus que l'on va vraiment avoir dans toute sa précision l'importance de l'accompagnement. Il y a toute une partie sur Carpe Diem, qui est un lieu qui accueille des personnes atteintes de ces pathologies neurodégénératives, qui se trouve au Québec et qui a un accueil et une relation avec les pensionnaires qui est d'une très grande précision, qu'ils ont vraiment développé sur un grand nombre d'années. Et Françoise Roy y a séjourné pour apprendre. Et donc, cet accompagnement est possible. C'est possible de l'institutionnaliser, même si c'est pour des petites unités. Mais il y a une réelle pistes de prise en charge pour accompagner, aider et permettre que ce travail comme celui de Françoise Roy puisse s'intensifier et s'amplifier. Puis il y a le dessin d'Étienne Davodeau. Alors, comme dit Françoise Roy, t'es pas un grand portraitiste. Et Étienne Davodeau, effectivement, le reconnaît, même si au fil des albums, il a un dessin qui est toujours d'une grande précision. Sa ligne se clarifie, est plus ouverte, plus légère, et elle définit les personnages avec cette précision et est capable de donner à chaque geste, eh bien, ce sens qui fait que les personnages sont là, sont présents. Et puis il y a ce qu'explore Étienne Davodeau depuis un très grand nombre de bandes dessinées, c'est ce qu'apporte l'image de la bande dessinée dans de telles situations. Comment traduire ces différents moments de cette relation entre une personne atteinte de ces profonds troubles de la mémoire et puis une accompagnante ou un accompagnant. Et là, il y a des trouvailles qui sont très simples, mais il y en a une que je tenais à vous présenter. C'est à un moment, c'est le moment des mains, des contacts des mains, où Étienne Davodeau va dessiner ce que les mains qui vont se toucher entre l'accompagnant et la personne accompagnée, eh bien, il va faire succéder des images où, eh bien, l'accompagnante est là, reste, mais c'est le personnage qui est accompagné, qui va changer, et on va passer d'un personnage à l'autre, et on voit très bien cette permanence de ce contact des mains qui va donner cette force aussi à la relation, à cette relation. C'est un livre d'une humanité extrêmement touchante, d'une très grande réussite, parce que Étienne Davodeau a pu pleinement assumer et porter un tel projet, et Françoise Roy a pleinement accepté de se prêter aussi au récit, et ils interviennent tout au long l'un et l'autre pour présenter, parler et créer aussi cette relation entre la fabrication de la bande dessinée et le récit sur ce voyage au pays de la mémoire qui flanche. Les 160 pages de ce récit ont été publiées par les éditions Futuropolis. Leur prix est de 24 euros et pour l'impression, eh bien, elle a été faite en France. J'ai un peu débordé, mais ce livre est tellement... j'y suis allé. Merci Issa. Alors c'est Antoine qui a commencé, c'est Issa qui a fini. Merci Issa pour cette technique, et on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités en direct. Bonne semaine à tous sur les ondes de Radio Escapade.
Écriture dessinée.